exposé, mais essayer, ça veut dire pas un exposé qui soit lu, mais essayer d'approcher une notion de la Megillat Esther, mais pour approcher cette notion, j'ai choisi d'exposer en fait le contenu de toute la Maseret Megillah. Alors c'est prétentieux, mais c'est ça l'exercice de ce soir, c'est d'avoir une vue générale de, non pas la Megillat Esther, parce que plus ou moins maintenant tout le monde la connaît, l'histoire du rouleau d'Esther, tout le monde la connaît, mais passer maintenant à la Maseret Megillah. Maseret, voilà, c'est le titre. Donc je vous ai distribué des brochures. La première page est son titre. Donc Maseret Megillah. Maseret Megillah est composé de 4 chapitres, dont les 2 premiers sont consacrés à la déclamation du rouleau d'Esther, et les 2 derniers sont consacrés à la déclamation du texte de la Torah et des prophètes. Voilà les 2 sujets qui sont traités dans ce traité, d'où son nom. En hébreu, il s'appelle Maseret. Maseret, c'est le féminin d'un mot qu'on connaît dans Maseret Shabbat. C'est une des 39 Melachot de Shabbat. Meser. Meser, ça veut dire installer les fils dans le métier à tisser pour pouvoir fabriquer justement un tissu. Et il se trouve que Meser et Maseret, en français aussi ça résonne, étant donné que le tissu, on peut l'appeler un textile, et une Maseret, c'est un texte. Et donc, le mot ici, il n'est pas du tout dérangeant. Et moi, ce que j'aimerais aussi montrer, c'est que le mot politique, aussi, il n'est pas du tout embarrassant. Ce qui est embarrassant, c'est l'usage qu'on va faire de ce mot. Mais le mot politique en tant que tel, ben moi je suis, j'ai été étonné, mais j'en ai pas un meilleur pour parler de l'enseignement de la Maseret Megillah. Mais pour ça, moi je vous avoue comment je travaille. Je travaille avec l'étymologie. Politique, ça veut dire se rapportant à la police. La police, c'est la cité en grec. Donc politique, le I-Q-U-E, c'est un suffixe qu'on rencontre dans beaucoup de mots en français, qui veut dire se rapportant à. Donc politique, ça veut dire se rapportant à la police. Ce qui est embarrassant, c'est notre usage. Aujourd'hui, on ne voit pas quel rapport il y a entre la politique et ce qu'on appelle la ville. Aujourd'hui, on a même changé de mot. On ne parle plus de politique pour parler de la ville. On a un autre mot, mais comme le français, il se nourrit de beaucoup de racines, c'est-à-dire latine, grecque et autres, il peut ensuite assigner des sens et restreindre le sens d'un mot à sa guise. Et c'est ce qui est arrivé avec le mot politique. Mais en tant que mot de la langue, et tel qu'il est formé, à partir du mot police et le suffixe « ic », ce que ce mot, il veut dire, c'est ce qui est en rapport avec la ville. Or, le traité Megillah, et ça c'est ce que je vais essayer de démontrer, la Maseret Megillah, la Megillah en Torah chez Béalpé, la Megillah en Torah orale, elle met en exergue justement cette notion qui s'appelle « ir ». « Ir », ça veut dire un collectif d'êtres humains qui s'agrègent pour former un lieu d'habitation. Ir, j'ai pas vérifié dans la Septante, mais ça pourrait tout à fait convenir au mot polis. Or, le texte de la Maseret Megillah, voilà comment il utilise le mot ville, ir. Donc on a dit, le traité Megillah, il est composé de deux sujets. Le premier sujet, c'est la déclamation de la Megillah. Et le deuxième, c'est la déclamation de la Torah et des prophètes. Donc le premier sujet, déclamation de la Megillah. Ben, la Megillah, on la lit. On peut même dire les lois directement qui sont liées à la lecture de la Megillah. Pourtant, comment la Mishnah, elle entre dans notre sujet? Alors on va lire un petit peu de Mishnah. Megillah, Nikret, Be'chadassar, Bishnemassar, Bishloshassar, Be'arbaassar, Bachamishassar. Le parot, veloyoter. Le rouleau, nikret, il est déclamé. Be'ahadassar, le 11, Bishnemassar, le 12, Bishloshassar, le 13, Be'arbaassar, le 14, Bachamishassar, le 15. Le parot, veloyoter, ni moins, ni plus. Kerakin, les villes, citadelle, Kerakin, c'est les citadelles. Hamukafin, Roma, des villes entourées de murailles. Mimot, Yoshua bin Nun, des jours au jour de Yoshua, fils de Nun. Korin Bachamisha Assar déclame la Megillah, le rouleau, le 15. Kefarim va Yarot Gedolot. Kefarim et Ayarot Gedolot. Ayarot Gedolot, c'est les grandes villes. Kefarim, alors dans le français courant, on a ville et village. Mais avec village, on n'entend pas le mot kfar. Tandis que il y a en français une autre manière de s'exprimer. On peut dire un bourg et un faubourg. Le bourg, c'est la ville, et autour de la ville, il y a une ceinture, on appelle ça les faubourgs. Kfar, c'est la même racine que kapara, kaporette, c'est ce qui fait une couverture à la ville. Kfar, c'est les habitations qui sont avant la ville elle-même. Donc, on pourra traduire les faubourgs, Vayarot Gedolot et les villes grandes, Corinne déclame, Be'arba, Assar, le 14, et là, si ce n'est que Sheha Kefarim, que les faubourgs Makdilin devancent leur déclamation, les Yom Ha Kenissa, au jour du rassemblement. Kessad, qu'est-ce à dire? Chaliot Yom Arba Assar Bacheni, si le 14 tombe un chéni, un lundi, Kefarim, les faubourgs, Ve'ayarot Gedolot, Corinne, Bobayom, les faubourgs et les grandes villes lisent le jour même. Pourquoi? Puisqu'on a dit dans la Mishnah Aleph que les faubourgs et les grandes villes lisent le 14, si ce n'est que les faubourgs devancent au jour du rassemblement. Eh bien, Yom Sheni, si Yom Sheni, si le 14 vient à tomber Yom Sheni, c'est-à-dire un lundi, les faubourgs et les grandes villes déclament la Megillah le jour même, ou Mukafot Roma, et les villes entourées de murailles, les Mahar. Le lendemain, c'est pas superflu, c'est mégaflu une phrase pareille. Puisque dans la Mishnah, on nous a dit les villes entourées de murailles lisent le 15. Sans modification signifiante, il n'y a pas de raison de dire que de la Mishnah Aleph à la Mishnah Bet, on a changé. Donc, les choses qui ne sont pas à préciser, il n'y a pas besoin de les préciser, surtout de cette manière. Or, la Mishnah, elle ne va pas le dire une fois, Mukafot Roma, les Mahar, elle va le dire 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois, c'est une expression qui va se répéter. Autant vous prévenir parce qu'elle va sonner. Donc, elle va résonner. Les grandes villes et les faubourgs lisent le 14 et Mukafot Roma, les villes entourées de murailles, pour demain. Les Mahar, on peut dire lendemain. Dans le lendemain, il y a aussi un Lamed, mais les Mahar, ça veut dire pour demain. Khali, je vais continuer la déclamation de cette Mishnah. Khaliyot bashelishi ou barevi'i. Si le 14 Adar vient à tomber un shlishi ou un revi'i, dans les langues européennes, les jours de la semaine servent, enfin, sont calqués sur le nom des planètes. Dans la langue de la Mishnah et dans la langue de la Torah, les jours de la semaine, c'est comme en portugais. C'est premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, jusqu'à Shabbat. On ne fait pas référence aux planètes quand on parle des jours de la semaine. Dans la Mishnah, on parle de lundi en termes de Segunda Fera, le deuxième jour qui amène à Shabbat, ou qui est après Shabbat. Donc, Khaliyot Bashlishi ou Barevi, si le 14 vient à tomber un mardi ou un mercredi, Kfarim Vayarot Gedolot, Kfarim Magdimin Leyam Akenissa. Enfin, on va pouvoir vérifier la règle de la Mishnah Aleph, les faubourgs devance au jour du rassemblement. Le jour du rassemblement, c'est quand? C'est donc lundi. Puisque quand le 14 tombe un lundi, les faubourgs lisent le jour même. Quand le 14 tombe un mardi ou un mercredi, les faubourgs lisent le 12 ou le 13, c'est-à-dire mardi ou mercredi. Non, c'est-à-dire lundi. Lundi, c'est le 12 ou le 13, quand le 14 est tombé un mardi ou un mercredi. Ou Mukafat Roma, les Mahar. Et les villes entourées de murailles, ça c'est pour demain. Khaliyot Bahamishi, Kfarim Bayarot Gedolot, Korin Bobayam, Mukafat Roma, les Mahar. Voilà un alinéa de la Mishnah qui ne comporte pas aucun ridouche, puisque tout ce qui est dit ici, on l'a déjà entendu pour le lundi, on le répète pour le jeudi. Le jeudi, les faubourgs et les grandes villes lisent le jour même, mais on a l'occasion de répéter que pour les villes entourées de murailles, c'est le lendemain, c'est pour demain, les Mahar. Khaliyot et Rev Shabbat, Kfarim, Magdimim, Leyom, Akenissa. Vayarot Gedolot ou Mukafot Roma Korin Bobayom. Si c'est tombé le 14 un vendredi, les faubourgs devancent le jour du marché, c'est-à-dire le 13 jeudi. Les villes entourées de murailles ne vont pas lire demain. Pourquoi? Parce que demain c'est Shabbat. Shabbat, on ne fait pas les mitzvot qui sont rares. Quand une mitzvah elle est rare, elle ne se pointe qu'une fois dans l'an. On la fait pas Shabbat. Par exemple, le shofar qui tombe, premier jour de Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, on sonne pas dans le shofar. Loulav, premier jour de Sukkot qui tombe Shabbat, on remue pas le loulav. De même, la Megillah, si le jour de lecture de Megillah tombe Shabbat, on ne lit pas Shabbat. Et là, on devance la lecture, les villes entourées de murailles vont avoir le même statut que les grandes villes. Les deux vont lire le 14. Maintenant, Khaliyot ba Shabbat, si le 14 est tombé le jour de Shabbat, Kfarim Vayarot Gedolot Magdimin Vekorim Leyom Akenissa. Et là, c'est le chidouche absolu de cette Mishnah, que la date de Pourim, elle a été fixée pour les grandes villes au 14. Et pour les faubourgs, il y a la possibilité de devancer au jour du rassemblement, c'est-à-dire 11, 12 et 13. Et là, on entend que ce n'est pas seulement les faubourgs qui vont devancer au jour du rassemblement, mais les grandes villes aussi. Puisque si le 14 est tombé Shabbat, on aurait pu dire aux grandes villes, vous allez devancer, vous allez lire le vendredi. Eh bien non. Si déjà, il y a deux, trois hameaux qui viennent jusqu'à la ville pour se réunir, élire ce jour-là, eh bien c'est toute la grande ville qui va être entraînée dans ce rythme, élire ce jour-là. Chaliot Achar HaShabbat, aussi, cet alinéa ne comporte aucun chidouche, si ce n'est la musicalité. Si c'est tombé le 14 un dimanche, les faubourgs, les grandes villes, les faubourgs devant ce jour du rassemblement, c'est-à-dire le 11 Adar, un jeudi, Vayarot Gedolot, Corinne Bobayom, les grandes villes lisent le jour même, ou Mukafot Roma, pour demain. Alors pourquoi j'insiste pour demain, pour demain? C'est parce que ça, c'est le mot de la guerre contre Amalek. Vayomer Moshe El Yoshua Bechar Lanu Anashim Vetse Ilachem Baamalek Machar. De même, dans la Megillah, Esther, elle, a risqué sa vie pour se présenter devant le roi. Elle se présente devant le roi, elle a eu la vie sauve. Eh ben vas-y, dis tout ce que tu as à dire. Non. Machar, demain, demain elle va dire ce qu'elle a à dire au roi. Et de nouveau à la fin de la Megillah, ils ont organisé une guerre le 13 Adar, et Esther, elle demande aussi demain, je voudrais aussi demain que nous soit donné la possibilité aussi le lendemain pour faire la guerre à Shushan, et ça a été accordé. Donc, le terme du lendemain, du demain, ici, il est central. Et ça, la Mishnah, elle nous l'a fait entendre. Parce que choisir une formulation dans laquelle on sera obligé de répéter 5 fois d'affilée, et pour la lecture de la Megillah, pour eux, c'est demain. Eh bien, on aura fait directement le lien entre le terme central de demain et notre sujet. Pourquoi c'est un terme central? Parce que Amalek, ce qu'il veut nous enlever, c'est justement ça. C'est demain. Un lendemain. Et c'est sur le lendemain que se joue la guerre avec Amalek. Alors, ah ouais, bah, si tu me demandes, il faut que je cherche un psautier au moins pour être sûr que j'ai pas raté un mot ou pas. Si, je peux le dire par cœur quand ça vient comme ça, mais si on me demande, bah, il faut le texte. La Mishnah, on peut la citer par cœur, mais pas le texte. Vayomer Moshe El Yoshua Bechar Lanu Anashim Vetse Ilachem Baamalek Machar. Donc c'est Exode 17, 9. Et dans la Megillat Esther, c'est donc il y en a deux. Il y a Machar Esé qui devint Ramélair. Il y a quand Esther, elle postpose sa requête au roi au lendemain. Donc ça, c'est au chapitre 5, verset 8. Machar Esé qui devint Ramélair. Machar, demain. Et ce lendemain, il avait pour but justement de mettre tous les juifs dans une angoisse que peut-être que Esther, en fait, elle a viré. Et le deuxième machar, c'est au chapitre 9, verset... Non, chapitre... Ouais, chapitre 9, verset 13. Vatomer Esther, im ala melertov, inaten, gam, machar. La première référence, c'est chapitre 5, verset 8. Ça, c'est voulu. Voilà l'enseignement oral de la Megillat Esther. La lecture, la déclamation de la Megillah, comment on dit sa date selon son appartenance à différentes catégories de collectifs, de villes. Il y en a trois. Il y a la ville entourée de murailles, depuis l'époque de Yeshua Bin Nun. Il y a la grande ville et il y a le faubourg. Et pour dire quand est-ce qu'on doit déclamer la Megillah, et ça c'est valable aussi bien pour les faubourgs que pour la grande ville, que pour les villes entourées de murailles, on le dit, donc, les dates de déclamation sont dites à partir de l'appartenance à une ville. Et ensuite on définit, Mishnah Gimel, Ezoïr Gedola. Qu'est-ce qu'on appelle une mégalopole? Ir Gedola, une grande ville. Kol Shiyeshba Asara Batlanim. Toute agglomération, tout bourg qui contient 10 Batlanim. Alors on aimerait bien traduire Batlanim par Tzadikim, haut fonctionnaire. Eh ben non, ils ne nous ont pas fait ce cadeau. Batlanim, c'est des oisifs, des hommes qui sont en cessation de tout travail. Et donc, en fait, on dit leur qualité. Des hommes qui ont choisi de cesser leur mélacha individuelle et de n'être disponible que pour le collectif. C'est ça qu'on appelle un batlan. Un batlan, dans la langue de la Mishnah, c'est quelqu'un qui renonce à une activité individuelle personnelle pour prendre sur lui une responsabilité du collectif. Ça, c'est un batlan.
C'est péjoratif.
Dans nos oreilles, ça peut être péjoratif parce que cet emploi-là, le plus souvent, il est péjoratif. On peut dire même que dans la Mishnah, elle est alerte et elle parle avec un terme qui peut s'entendre péjorativement parce que c'est le risque du métier. Et on peut aussi être péjoré dans ce métier de batlan. Enfin, il y a beaucoup de manières de parler de ces batlanim chez les commentateurs. Moi, je vais prendre une ligne à minima. Batlan, ça veut juste dire être engagé à se tenir au moment où on a besoin de former un collectif, c'est-à-dire la tfila. Être parmi ceux qu'on peut, sur lui, on peut compter pour les 10. Autant vous dire qu'il y a des très grandes villes, elles sont devenues des villages. Et s'il n'y a pas des gens sur qui on peut compter sur eux pour les 10. Voilà ce qu'on appelle une grande ville. C'est quoi une grande ville? C'est une ville qui possède 10 personnes, qui abandonnent toute affaire particulière pour faire cette réunion, cette Kenissa. Très bien. Premier sujet donc de la Maseret Megillah en rapport avec la ville, la déclamation de la Megillah en rapport avec la ville. On aurait pu croire que on va en finir avec la ville au chapitre 1, pas du tout, pour une raison qui échappe au commentateur, enfin à Tiferet Israël qui l'a souligné. On peut tourner maintenant la page, on va passer au chapitre 2, puisque ensuite le chapitre 1, il est rempli d'une digression. La Mishnah, à partir de la Mishnah 4, Donc, les trois premières Mishnayot, Aleph, Bet, Gimel, parlent de la Megillah en rapport avec la définition de la ville. À partir de la Mishnah 4 et jusqu'à la fin du Pérec, on est dans une digression. La Mishnah 4 en elle-même, à la limite, vraiment à la limite, on peut encore la garder dans notre traité parce qu'elle parle de Adar Rishon et Adar Sheni. Mais ensuite, toute la suite, c'est une liste d'enseignements qui procède par comparaison, en disant il n'y a aucune différence entre A et B, entre Shabbat et Yom Tov, entre Shabbat et Yom Kippour, entre un petit Zav et un grand Zav, entre un Metzora, entre un homme atteint de malignité séquestré et un homme atteint de malignité qu'on a confirmé comme tel, etc. 13 cas. Ce qu'on voit très clairement apparaître, c'est une liste. À quoi elle correspond cette liste? C'est difficile de dire précisément. Elle s'est glissée ici dans la Mishnah. Donc, pour aujourd'hui, on ne va pas parler de cette liste, même pas une minute. Juste, on l'a mentionnée parce qu'on est en train de faire quand même la présentation de toute la Maséchet, donc on ne peut pas ignorer ça. Il y a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mishnayot qui sont une liste de 13 choses, de 13 enseignements procédant par comparaison. Une chose on peut tirer de la liste, c'est qu'il n'y a pas de différence entre le Beit Rishon et le Beit Sheni. Et ça, c'est un enseignement capital. C'est-à-dire, le Kohen qui sert au Beit Rishon et le Kohen qui sert au Beit Sheni, tous les deux, on les appelle des Kohen Gadol. Bien évidemment qu'il y a moult différences entre le Beit Rishon et le Beit Sheni, mais quand même on aura entendu ça dans cette liste. Il n'y a pas de différence entre un Kohen qui a reçu l'onction et un Kohen qui n'a que reçu les 8 habits plutôt que 4 de chaque Kohen. Il n'y a pas de différence, tous les deux c'est des super Kohen. Éventuellement on peut dire que ça c'est en rapport aussi avec la période. Très bien. Ensuite, le Perek Sheni. Le Perek Sheni, il fait son travail. Est-ce qu'on peut lire la Megillah en désordre? Non, on n'est pas quitte. Hakoret Megillah le Mafrea lo yatsa. Clamer le rouleau à l'envers, dans le désordre, lo yatsa, on n'est pas sorti des mains de son obligation. On n'est pas sorti, on ne s'est pas acquitté. Kera'a alpe, s'il la déclame par cœur, Kera'a targum, s'il la déclame en traduction, Bekol Lachon lo yatsa. S'il la déclame par cœur, il n'est pas quitte, il faut la déclamer à partir d'un rouleau manuscrit écrit sur du parchemin. Je passe à la Mishnah Bet. Kera'a serugin, ou mitnamnem yatsa, si on la lit par morceau, en s'assoupissant, yatsa, il est quitte. Haya kotva, s'il était en train de copier la Megillah. La Megillah, quand on la copie, de manière générale, les 24 Kitvei HaKodesh, quand on les copie, on doit avoir devant soi un livre duquel on copie. Quand on copie, on a un exemplaire en face de soi. Haya Kotva, s'il est en train de la copier, Dorsha, ou en même temps qu'il la clame, il l'explique, ou Magia, ou en même temps qu'il la déclame, il fait attention à ce que chaque mot et chaque lettre, ils y soient. Magia, c'est donc une lecture en vue d'une de s'assurer que toutes les lettres et tous les mots y sont. Imkiven libo yatsa. Si avec son cœur il a visé, il est acquitté. C'est-à-dire, s'il fait attention, malgré son autre activité, à déclamer tous les mots, il est quitte de la déclamation. Donc c'est pas une déclamation qui n'est pas chahutée comme la déclamation de la Torah. C'est une déclamation qui peut éventuellement être agrémentée d'une dracha. Ok. Mishnah Gimel. Ben ir she'alach le krach ou ben krach she'alach la'ir. Imatid la chazor limkomo Kore kimkomo veimlav kore imaem. De nouveau, ici, ça n'avait pas sa place dans ce chapitre. Il fallait le mettre dans le chapitre avant, puisqu'on est en train de dire un homme de ville, un fils de ville qui est allé à la citadelle, ou alors un fils de citadelle qui est allé à la ville, voilà sa règle. Si dans l'avenir il reviendra à sa place, il déclame comme dans sa place. Sinon, il déclame avec eux. Ça, c'est une loi qu'on aurait dû mettre dans le premier chapitre. Et on l'a mis dans le deuxième chapitre, en tout cas, ça sert ici ma thèse, que, et dans le premier chapitre, et dans le deuxième chapitre, on ne veut pas laisser l'enseignement de la Megillah, de la déclamation de la Megillah, se déployer sans qu'on ait ramené à l'ordre la notion de la ville, et que c'est la ville qu'on a fait sienne qui détermine le moment dans lequel on va déclamer la Megillah. On a fini avec les deux premiers chapitres. Insistance dans ces deux premiers chapitres de la place de la ville par rapport à la déclamation de la Megillah. Et maintenant on arrive au deuxième sujet de notre traité. Le deuxième sujet de notre traité, c'est la déclamation de la Torah. Moi, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, je vais juste faire un sommaire du traité et vous montrer comment la notion de Hir, ici, elle a été mise en exergue, autant pour la déclamation de la Megillah que pour la déclamation de la Torah. Alors, la déclamation de la Torah, ça, c'est véritablement un sujet. Parce que le sujet de la Megillah, à proprement parler, il nécessitait pas une maséchet. Vous voyez, il y a une autre fête qui ressemble à Pourim, c'est la fête de Hanouka. Elle n'a pas de maséchet de Mishnah. La maséchet Megillah, non plus, on aurait pu inclure les éléments dont elle est formée ailleurs. Il n'y a pas de nécessité en tant que telle. Le sujet n'est pas suffisamment mobilisant pour lui consacrer un traité à lui-même. Donc, d'avoir décidé de prendre un traité et lui donner le nom de Megillah, c'est ici quelque chose qui est réfléchi par Rabbi. C'est donc que Rabbi, celui qui nous a transmis le corpus de la Mishnah, ici, qu'est-ce qu'il nous transmet? Que les lois de la déclamation de la Torah, on ne va pas les mettre avec les lois de la prière, comme Maïmonide le fera plus tard. On ne va pas le mettre avec les lois de la prière, malgré que ça, c'est sa place naturelle. On va le mettre ici, dans Maséchet Megillah. La déclamation de tous les rouleaux de la Torah, et la manière de s'y prendre, les lois de la déclamation du rouleau de la Torah, où on les trouve dans Maséchet Megillah. Alors ça, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Pourquoi ? Parce que ici, on a commencé la Megillah en parlant, le traité Megillah en parlant de la déclamation de la Megillah, premier sujet, chapitre 1 et 2. Et ensuite, comment on continue ? Par la déclamation de l'ensemble de la Torah. Quelles sont les lois de la déclamation de la Torah ? Ce qui donne à penser que la déclamation de la Megillah, elle a partie liée, et pas un peu énormément, étant donné que c'est elle qui accueille les lois de la déclamation de la Torah, premièrement. Mais ça ne suffit pas, il faut encore lier ça à la ville. Alors pour ça, on va lire la première Mishnah du Perek Shlishi. Le Perek Shlishi, il est composé d'abord de trois Mishnayot. 1, 2, 3. Et ensuite, du reste. Les trois premières Mishnayot parlent des lois du Beit HaKnesset. Alors on y va. Bene Ha'ir, Shemachru Rechova Shel Ir. les fils de la ville, les bâtisseurs de la cité, chez Marou Rehova, chez Ir, qui ont vendu la place de la ville. Rehova, c'est le Rehov, c'est le terme qui désigne l'endroit où on se réunit quand il y a une très grande affluence. C'est les jours de jeûne. Les jours de jeûne, les lieux de réunion, ils éclatent. Puisque tout le monde est là, il n'y a pas de place pour les contenir, alors on va dans la place qui est réservée à ça. Béné Haïr, les fils de la ville qui ont vendu Rehova, la place. Quelle place il s'agit ? La place dans la ville dans laquelle on se rassemble les jours de jeûne. Shel Ir. Lokrim Bedamav Betakneset peuvent acquérir avec sa valeur une maison de rassemblement. Voilà le mot Beit HaKneset. Il y a une maison pour se rassembler. Si Beit HaKneset, Lokrim Tevasi, les fils de la ville ont vendu une maison de rassemblement, ils peuvent acheter une boîte, un écrin. Donc c'est soit le Aaron HaKodesh, soit la boîte dans laquelle on met le manuscrit de la Torah. Teva Lokrim Mitpachot. Si ils ont vendu une boîte, un écrin, ils peuvent acheter avec sa valeur Mitpachot. En Alsace, on appelle ça une mappa. C'est une serviette dans laquelle on entoure la Torah ou avec laquelle on se saisit des parchemins de la Torah, réservés à cet usage. Mitpachot, Lokrim, Sfarim. Si on a vendu des nappes, des serviettes, Lokrim, Sfarim. Avec cet argent, on pourra acheter des livres. Un des 19 livres de la sainteté, c'est-à-dire les 8 prophètes ou les 11 hagiographes. Sfarim, Lokrim, Torah. Et s'ils ont vendu des Sfarim, ils peuvent acheter avec ça de la Torah. Aval Machut Torah, mais s'ils ont vendu une Torah, Loikru Sfarim, ils ne pourront pas acheter un des 19 livres. Sfarim Loikru Mitpachot, s'ils ont vendu un des 19 livres, ils ne pourront pas acheter avec ça des nappes. Mitpachot Loikru Teva, des nappes, ils ne pourront pas acheter un écrin. Et là, il y a une erreur dans la brochure, étant donné que en face, vous n'allez pas passer à la suite du Berek Shlishi, mais il faut tourner encore une page. La page, elle est inversée. Alors, avec Alex, aujourd'hui, j'ai appris que même à partir du retard du Talis, il faut être d'Oresh. Si le Talis a un retard, il faut être d'Oresh auto. Donc moi aussi, après, je me suis dit, bien sûr, il faut être d'Oresh. Pourquoi cette page, elle est venue à l'envers? Pourquoi? Eh bien oui, il y a la possibilité d'interpréter pourquoi cette page, elle est à l'envers. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une controverse entre le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem pour savoir dans quel ordre les chapitres défilent dans ce traité. Ça peut arriver. Dans le Talmud de Babylone, le chapitre 4 y figure à la place du chapitre 3 et le 3 est en dernier. Tandis que dans l'édition de la Mishnah et dans l'édition du Yerushalmi, le chapitre 3 est à sa place et ensuite vient le chapitre 4. Donc, la feuille, elle est inversée, ben c'est normal. Il y a aussi une tendance du Talmud de Babylone à vouloir s'imposer. Teva loikru bet akneset loikru et arechov vechen bemot rehem. Oh, je ne vais pas continuer à lire parce que maintenant il faut déjà qu'on rassemble nos éléments. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que les fils de la ville, qu'est-ce qu'ils ont dans la vie? Qu'est-ce qu'ils ont à faire comme transaction? Vendre un lieu où on se réunit. Voilà la préoccupation des enfants de la ville. Mais les enfants de la ville, ils peuvent avoir des projets d'urbanisme. Non, les projets d'urbanisme, soit, ils sont là, mais ce que la Mishnah veut pointer chez les fils de la ville, c'est que eux, ils doivent prendre une décision. Voilà, ils vont vendre quoi ? La rue dans laquelle ils se rassemblent, ou le Beth Aknesset, ou le livre de la Torah. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent ? La règle, elle est simple, on ne peut que augmenter. On ne peut que augmenter en Kedusha, et c'est ça que la Mishnah, elle a fait défiler devant nous. Donc, les fils de la ville, s'ils doivent se réunir, c'est pourquoi ? C'est pour parler de la vente de la rue dans laquelle on se réunit, ou de la maison dans laquelle on se réunit, Beit HaKnesset. Et le Pérec, il continue là-dessus, puisque la Mishnah Bet, En Mochim Beit HaKnesset, la Mishnah Gimel, de nouveau, un din sur le Beit HaKnesset. Mais la Mishnah Gimel, on est obligé de la lire, parce qu'elle est en rapport, justement, avec notre préoccupation. Od Amar Rabbi Yehuda Beit HaKnesset Shecharav, un lieu de rassemblement qui s'est désagrégé. En Maspidin Betocho, on ne peut pas faire là-bas des élégies, des discours qui font pleurer Betocho à l'intérieur. Ven Mafshilin Betocho Chavalin, on ne peut pas tendre à l'intérieur des cordes. Ven Porcin Letocho Metsudot, on ne peut pas tendre dedans des pièges. Ven shotterin algago perot, ni étaler sur son toit des fruits pour les faire sécher. Ven osinoto kapandaria, et on ne peut pas en faire un raccourci. Chez Nehemar, vehashimoti et migdash echem, je rendrai désolé vos sanctuaires. Kedushatam af keshem shomemin, leur sainteté demeure même quand ils sont désolés. Alors ça c'est intéressant, puisque ici la citation qui est mobilisée pour parler de la maison du rassemblement, c'est ni plus ni moins que le terme de Mikdash. Et ensuite, la Mishnah ouvre la question de la déclamation de la Torah. Par quel morceau on rentre dans la déclamation de la Torah ? Rosh Chodesh Adar Shechal Yod Beshabbat, c'est le cas de notre semaine. Rosh Chodesh Adar Shechal Yod Beshabbat Goren Beparashat Shkalim Chaliot Betoch HaShabbat Magdimin Neshavar Umafsikin Neshabbat Acheret Bashnia Zachor Bashlishit Para Aduma Barelit Achodesh Azelachem Bachamishit Chozrim Le Kesidram. La déclamation de la Torah maintenant, elle va faire l'objet du chapitre 3 et 4. Au chapitre 4, on revient un tout petit peu sur la déclamation de la Megillah, mais juste pour l'opposer à la déclamation de la Torah. Quelles sont en gros les différences entre la déclamation de la Torah et la déclamation de la Megillah ? Eh bien, en très gros, voilà la différence. La déclamation de la Torah, c'est une obligation sur le collectif. Tandis que la déclamation de la Megillah, c'est une obligation de chaque individu, mais selon la manière qu'il a de faire sien la ville avec laquelle il forme un collectif. Donc la déclamation de la Megillah, c'est une obligation de chaque individu. Chaque individu doit déclamer la Megillah. Mais cette déclamation, elle est dépendante du jour auquel cet individu, il s'agrège pour faire d'une ville la sienne. Donc, soit un faubourg, soit une ville, soit une grande ville, soit une ville entourée de murailles. Il existe dans la Torah une déclamation comme celle de la Megillah qui est une obligation de chaque individu. C'est laquelle ? Eh bien, c'est celle du Hallel. Pourquoi celle du Hallel ? Parce qu'elle ressemble beaucoup à celle de la Megillah. Quand il y a des jours où on doit clamer le Hallel par institution des sages, c'est une obligation pour chaque individu de clamer donc des psaumes de Tehilim, qui sont des Ketuvim comme la Megillah elle-même. Mais il y a plus proche que ça, et ça c'est la musique de la Mishnah de Megillah qui nous le fait entendre. C'est que la déclamation de la Megillah, en fait, à quoi elle s'apparente ? À la déclamation du schéma. Le schéma, c'est une déclamation aussi que chaque un doit faire individuellement. Donc voilà la grande affaire. C'est qu'il existe des déclamations qui sont une obligation au niveau du collectif, et donc si la chose elle se passe, la chose elle se passe, l'individu n'a pas une obligation lui-même à se soucier de cela. Tandis qu'il existe des déclamations de versets qui sont à titre individuel. La Megillah est une déclamation qu'on doit faire chacun individuellement. Ce qui m'amène à conclure, Alhamdoulilah, on a fini, c'est fini, que il y a une notion particulière ici à entendre dans la déclamation de la Megillah, et c'est celle-là qui est même mise en exergue dans la déclamation du schéma qu'on fait tous les jours par Rashi. Alors je vous lis Rashi. Dans le schéma, Ve'ayu adevarim ha'ele asher anochim et tzavecha hayom. Elles seront les paroles, celles-là, que moi je te recommande. Hayom. En ce jour, aujourd'hui, Rashi, Hayom, le yiyoube enecha, ils ne doivent pas sembler à tes yeux que diut kema, comme un diut kama, yeshana, comme une vieille diut kama, chez en adam sofna, qu'aucun homme n'est en quête d'elle, et là, qui est Hadasha, mais comme une Diutkema, Hadasha, comme une nouvelle Diutkema, chez Akol Ratzim Likrata. Tout le monde court à sa rencontre pour voir ce qu'elle contient, la nouvelle Diutkema. Diutkema. Mitzvat Hamelech Haba'a Benirtar. Diut Kema, c'est la recommandation du roi qui arrive par écrit. Voilà comment on parle de la déclamation du schéma. Et bien ça, chers amis, mais ça, on n'a pas le temps d'en parler ce soir, mais vous pouvez remporter avec vous la brochure, parce que c'est à cette fin que j'ai photocopié ça pour vous. Toute la Megillat Esther n'est qu'une Diut Kema. Et cette Diut Kema, Mitzvat Hameler Haba Birtav, elle a été reçue comme un texte majeur, et elle est récitée par nous comme on récite le Kriyat Shema, c'est-à-dire comme une obligation qui repose sur chaque individu. Pour moi, j'ai fini aujourd'hui. Avec plaisir, je m'expose à toutes vos questions.
C'est une question. Est-ce qu'il n'y a pas une réciprocité ou un miroir entre l'obligation d'écouter la Megillah et la même chose, on a l'obligation d'écouter le passage de Zahor, c'est le seul passage de la Torah qu'on est obligé d'écouter, là c'est à titre individuel.
Alors c'est une question qui demande beaucoup de détails, mais je vais essayer d'être le plus précis possible. Zahor, alors c'est d'abord elle est très bonne la question parce que c'est notre préoccupation de cette semaine. Zahor, c'est une convocation du souvenir qui est présente pour nous, par exemple, chaque Shabbat. Chaque Shabbat, on a une mitzvah qui s'appelle Zahor et Asher Asa, Zahor et Yom HaShabbat, les Kadeshot. Rambam traduit, dire avec des mots la spécificité du jour de Shabbat. De même, on a une mitzvah, Zahor et Asher Asa, Lecha Amalek. Maintenant, cette mention, elle doit se faire avec des mots, parce que dans la tête, ça aurait suffi que la Torah nous donne la recommandation à ne pas agir, qui s'appelle le tiskar. Tu ne dois pas oublier. Pour ne pas oublier, il faut l'avoir en tête. Si on nous dit Zahor, c'est Zahor Bepé. Il faut le dire avec des mots. D'ailleurs, d'où on sait dans le texte de la Megillat Esther que la Megillat Esther, elle doit être déclamée. D'où on sait? C'est parce qu'il est marqué Vayami Maele Nizkarim Venaasim. Ils sont mentionnés et réalisés. Mentionné, ça veut dire dit avec des mots. Donc, la mitzvah de Zahor, telle que j'ai parlé jusqu'à maintenant, c'est pas l'unanimité. La mitzvah de Zahor, c'est une takana des sages, comme une lecture de la Torah du mois de Hadar. Les sages, Ezra et les sages de la Grande Assemblée, ils ont, à part la manière, on va dire, d'organiser cette déclamation, ils ont aussi donné un calendrier de déclamation. Le mois qui précède Pessah, c'est un mois où chaque Shabbat, il y a quelque chose qui est mis en exergue. Et ça, depuis la Mishnah, depuis la Anshe Knesset Agdola. Donc on peut dire que avoir mis la déclamation de la Torah, y compris la paracha de Zahor, qui comporte cet aspect aussi de la recommandation de la Torah de se souvenir de Amalek, est au cœur du sujet de la Maseret Megillah. Étant donné que dans la Maseret Megillah, on ne fait que bisser, on ne fait que répéter une mention de notre haine féroce de Amalek et notre volonté que son nom soit effacé, mais cette fois c'est par le biais du personnage de Haman.
Ça me semble un peu comme un acte nécessairement collectif. J'entends que collectif au sens où c'est une condition de forme, ça impose un minimum, mais c'est pas évident d'après tous les Rishonim, même chez les Poskim, que ce soit en soi un chiyuv, un devoir de nature collective. En ce sens que par exemple, si quelqu'un a loupé, c'est connu la Chita du Gaon de Vilna par exemple, pour Thomas Aseraf, que si on a loupé un certain nombre de parashiyot, d'après certains, on a l'obligation de les reprendre, de les écouter à nouveau. Quid? Pourquoi là, c'est la qualité de manière aussi décisive, le mitzvah collectif?
Alors, ce qui permet de parler de la Kriyat Torah comme mitzvah collective, c'est la nécessité de la présence d'un collectif. Le collectif, c'est pas qu'une question de forme. Enfin si, parce que la forme, c'est quelque chose qui est très important. Mais la forme, dans le sens, on va dire, majeur de la tsoura de la chose. Convoquer 10 et dire « on ne peut déclamer qu'à 10 », c'est donner à cette réunion un caractère, et ce caractère, il n'a pas un autre nom que « Kedusha ». Que « on se réunit pour déclamer ce texte-là », ça s'appelle Davar Shelik Dusha Tsarir Asara. Nécessiter 10 personnes pour faire cette déclamation, ça situe la déclamation complètement ailleurs que l'étude de la Torah. Étudier la Torah, la lire, c'est une chose. Déclamer la Torah, c'est une autre chose. Déclamer la Torah, c'est se mettre en posture d'écouter la Torah comme elle nous a été adressée. Et pour ça, il faut faire une ambiance. Il y a des bénédictions à faire avant, il y a donc un minyan à réunir, et il y a, on va dire, toute une manière de s'y prendre pour faire que, de cette déclamation, on entende une voix qui s'adresse à nous.
Oui, mais ça ne dit pas complètement la notion triou. Ça dit la condition d'accomplissement de la mitzvah. Mais ça ne dit pas quel est mon devoir d'aller me confronter ou pas à ces conditions d'écoute.
À ça, je n'ai pas répondu. Moi, je ne rentre pas dans ce débat. Les choses existent. Ce qui permet de parler de la déclamation de la Torah en termes de collectif, c'est
la nécessité d'être dit, sinon on ne peut pas déclamer. Sinon on peut lire la Torah, mais lire la Torah et la déclamer, crier ta Torah et Talmud Torah, ça n'a rien à voir. Puisque dans Kriyat HaTorah, c'est une mise en scène qu'on fait pour reproduire la voix qu'on entend du Sinaï. C'est cette mise en scène qu'on appelle Kriyat HaTorah.
Vous avez fortement mis l'accent au début de votre exposé sur la présence massive du thème de la ville dans la Maseret Megillah, et vous avez abandonné ce thème. Je serais très attentif à ce que vous en disiez plus long, parce qu'il est très très rare dans le Limoud. Le peuple d'Israël est un peuple de livres, pas un peuple de ville. La ville, ça suppose toutes sortes de connexions, d'organisations, de police, de règles de hiérarchie, de dépendance, etc., sur lequel la Torah n'est pas très bavarde. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce thème de la ville?
Eh bien, je vais répéter ce que vous avez dit, parce que pour moi, c'est exactement ça que je veux dire. Que dans la ville, on a besoin de toutes sortes de connexions, et dans la Mishnah, c'est muet. La seule chose qui intéresse à la Mishnah de faire entendre, c'est que la réunion de la ville, elle est une réunion autour d'une parole. Que la ville, qu'est-ce que c'est? Ce sont des humains qui sont réunis autour d'une parole qu'ils ont mise en commun et à laquelle ils donnent de la hauteur. Tout ce qui se passe dans la ville, avec l'importance que ça peut avoir pour la vie de chacun qui habite cette ville, c'est pas lo relevanti, c'est non relevant pour la Mishnah. Ce que la Mishnah veut mettre en exergue sur la ville, c'est que ce qui constitue une ville, c'est cette réunion de gens qui vont déclamer. Que j'ai insisté autant que faire se peut avec le Tana pour bien montrer que la notion de ville, elle est convoquée par rapport à la notion de la déclamation. C'est quoi la déclamation? C'est une parole qu'on met en commun. L'économie et le vivre ensemble et tout ça, c'est des notions très importantes, mais pas dans la Mishnah. Donc, j'ai pas de réponse à apporter à ce que vous dites. Je n'ai que fait répéter, vous avez bien entendu ce que j'ai dit.
Une question par rapport à... Ce qui me frappe, c'est une question qui va dans le même sens que celle de Poudrigline. Ce qui me frappe, c'est que effectivement, ce concept de ville est complètement différent de ce que nous, on a l'habitude d'entendre. Mais surtout, ce que je vois, c'est que pour se connecter avec Dieu, il faut former un collectif. La superstructure de tout ça, c'est qu'on doit se connecter à Dieu, pas dans n'importe quelle condition. Et suivant les conditions d'appartenance au collectif, la connexion à Dieu est différente, la date en particulier. D'accord? Mais ceci n'explique pas, et là je reviens à la question de Claude Rivlin, ça n'explique pas l'histoire de la ville. Ça explique la question de la connexion, ça explique la question, enfin, les conditions de connexion, mais ça n'explique pas vraiment le concept de ville, au sens où politique, en fait, puisqu'on s'intéresse à ça ici.
Ben, la ville, chacun arrive dans la ville avec ses chaussures, et la Mishnah aussi. Et ce que la Mishnah veut nous faire entendre dans la ville, c'est que quand elle arrive en ville, la Mishnah, ce qu'elle veut nous faire entendre, c'est la possibilité qu'il y ait un collectif qui se crée à travers cette cria, à travers cette voix déclamée, clamée, c'est elle qui réunit, c'est elle le facteur de réunion, c'est elle qui est le point autour duquel s'agglomère la ville.
Alors, dans ce que vous avez expliqué, justement, là aussi, il y a un mouvement un peu différent. C'est que ceux qui viennent des faubourgs deviennent déterminants par rapport à ceux qui sont dans la ville, c'est ça?
Vous avez résumé qu'une des sept possibilités du 14 qui tombe pendant les jours de la semaine. Dans une des possibilités, on a dit que la grande ville a rejoint le faubourg. C'est une seule des possibilités. Mais c'est pour dire que moi, en fait, dans cette possibilité, ce que je veux mettre en valeur, c'est Yom HaKenissa. Qu'il existe un jour de rassemblement. Jour de rassemblement pour faire quoi? pour vendre des légumes, pour aller à la bourse. Non. Jour de rassemblement pour lire dans la Torah. Lundi et jeudi, ce sont les jours de rassemblement dans lesquels on déclame dans le rouleau de la Torah. Lundi et jeudi, ce sont les jours où les enseignants, ils arrivent en ville, ils siègent et ils donnent les enseignements à tout celui qui cherche une réponse à ces questions. Dayanim Yoshim Bayam.
Oui, je voudrais faire une observation sur la manière dont la Mishnah parle de la ville. Dans la conception grecque de la ville, il y a une formidable et féroce hiérarchie. C'est-à-dire que dans la ville, il y a les seigneurs, il y a les gardiens, il y a les esclaves, il y a les métèques, il y a les commerçants. Tandis que dans le thème de la proclamation qui est constant dans votre présentation, il y a une formidable démocratie. C'est que tout le monde entend la même chose. Et ils doivent être ensemble. C'est en contraste complet avec la conception de la police de Aurélias de Grec.
Mais en même temps, cette ville,
vous avez dit, c'est une remarque, donc je n'ai pas besoin de répondre.
Mais en même temps, cette ville que vous décrivez, ça me rappelle Italo Calvino, c'est une ville invisible d'une certaine façon.
Il suffit d'ouvrir les yeux et vous allez voir Paris va se transformer sous vos yeux si vous avez ça en tête. Si pour vous la ville de Paris, c'est les endroits où on clame dans la ville de Paris, il y a des gens qui veulent se réunir pour dire des choses ensemble. Ça, eh ben, ça donne une autre représentation de ce que peut signifier le mot ville. Et le mot politique ici, en rapport avec la ville, eh ben, il est tout à fait d'actualité. Déclamer dans la Torah, c'est un acte politique. Monsieur Paul.
Oui, dans le même sens de ce qui vient de dire, d'être dit, en fait, vous me donnez raison de ne pas aller, de ne pas avoir tenu compte de la halakha. Notamment, je l'ai lu. Quand j'écarte, je dis simplement, la Maseret Megillah s'intéresse, très précisément ce que je. Elle s'intéresse à. Si c'est une ville fortifiée, pas fortifiée, comment est-ce qu'il. La question de la politique, chez les Grecs, ça n'a rien à voir avec ça. Nous sommes, nous, entendons-nous, occidentaux, on va dire, l'Europe, nous sommes les héritiers d'une certaine manière de comprendre la politique qui doit aux Grecs. Alors, où est la différence? Où est la grande différence de ce que vous venez de nous exposer de manière très, très éloquente et très intéressante? C'est que on se réunit pour déclamer. Et naturellement, on déclame parce que c'est une obligation, une recommandation du roi, cette recommandation du roi par écrit. Mais c'est pas du tout ça que font les Grecs. En fait, quand les Grecs se rassemblent, c'est pour exercer leur liberté politique. Ils exercent leur liberté politique. Les Grecs se pensent comme autonomes. Et c'est pour ça que, naturellement, on va toujours voir chez les Grecs, parce que l'idée d'autonomie politique est née dans la Grèce antique. Donc ils se pensent autonomes. Qu'est-ce que ça veut dire, se penser autonome? Ça veut dire que les décisions qu'ils vont prendre, la manière dont ils vont vivre ensemble, la manière dont ils vont aller à la guerre, toutes les décisions qu'ils vont prendre, et c'est ça la politique de la cité, toutes ces décisions procèdent de leur volonté. Or, ce que vous nous décrivez, très justement, c'est une position, et ce n'est pas du tout un jugement de valeur, je veux dire, entre la politique grecque et la politique d'Israël, il y a un fossé qui est tout à fait abyssal. Ce qu'on exerce là n'est pas du tout une autonomie, et chez les Grecs, elle est individuelle. C'est chaque citoyen. elle est individuelle, l'autonomie. Là, naturellement, on a vu, on doit lire individuellement, mais lire individuellement comme une obligation, c'est pas manifester son autonomie, c'est, on va le dire, je vais le dire de manière un peu abrupte, c'est manifester sa soumission. Il n'y a pas de mal, hein. Je veux dire, voilà. C'est marqué sa soumission à quoi? À une autorité qui est supérieure. Bon, voilà. C'est pour ça que, effectivement, mais alors, là, on voit bien que sur la ville, ce que j'ai entendu là, il y a quand même une musique derrière. C'est que c'est pas la ville, c'est les Juifs dans la ville. Et c'est pour ça, naturellement, que dans une ville où il n'y a pratiquement pas de Juifs et on n'arrive pas à mobiliser 10 personnes pour venir, etc., la ville a beau être une mégalopole, pour les Juifs, c'est un village. Donc, ben oui, mais alors, du coup, naturellement, on est là dans un univers qui est complètement différent et dans laquelle, disons, on ne peut pas retrouver les traces de quelque chose qui serait l'autonomie politique, et pourtant il y en a. Et pourtant on ne peut pas écarter que, naturellement, les Juifs ont suivi la halakha, ils ont lu la Megillah comme on l'a dit de leur lire, ils se sont soumis aux prescriptions. Mais ils ont aussi agi politiquement. Si j'essaye de comprendre, là je reviens sur mon point de vue, mais qui n'est nullement en contradiction avec la vôtre. Simplement, ce que je dis, c'est que ce n'est pas là que se trouve la politique. Là se trouve toutes sortes, tout ce que vous nous avez dit, c'est incontestable, il n'y a pas de raison de... Mais ce n'est pas là qu'on trouve la politique. Comme disait M. Rivlin, il y a, en fait, les villes, qu'on prend le récit, les villes n'ont aucune importance. Les catégories politiques de l'ancien Israël ne passent pas par les villes, éventuellement tardivement Jérusalem. Autrement, les villes n'ont strictement aucune importance. La division territoriale qui se fait, c'est une division par tribu et par terre de la tribu, pas du tout par la ville. Donc, voilà. Alors, naturellement, toute la question qui se posait à moi, c'était où est-ce que je vais trouver la politique? Et naturellement, on ne la trouve pas dans la halakha concernant Pourim. Par contre, on la trouve pas uniquement, mais on la trouve de manière exacerbé dans tout un ensemble de commentaires, d'explications du texte de la Megillat Esther, de commentaires de la Megillat Esther, où là, on voit surgir le problème politique et le traitement de la politique.
Donc, ce que vous entendez par politique, c'est gouvernement autonome. Prendre en main les affaires de la cité.
Alors, ce que j'essaye de montrer, c'est que prendre en main les affaires de la cité suppose la crise, dans le cadre de la politique juive, non pas telle que je la fantasme, mais telle qu'elle s'est réellement déroulée. C'est-à-dire, elle s'est réellement...
Vous pensez que dans la Mishnah,
oui,
le sujet de la politique...
J'ai pas dit dans la Mishnah qu'elle était...
Cette Mishnah, excusez-moi, je suis venu ce soir en disant...
Oui.
Effectivement, le traité Megillah a fait de la déclamation de la Megillah un enjeu politique. Qu'est-ce que ça veut dire politique? Politique, en rapport avec la ville. Ça oui. Maintenant, si vous, le dites, dans le traité Megillah, on ne parle pas du tout de politique, donc vous définissez la politique autrement. Noter ce terme avec une acception particulière. C'est ça que je veux entendre.
Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de politique dans le sens... Et si vous dites, par exemple, à quelles conditions les gens sont assemblés? Pourquoi ils sont assemblés? Naturellement, il y a là une dimension de constitution du collectif. Mais la politique, elle concerne Israël. Elle concerne pas le collectif. La politique du collectif, c'est la manière dont Israël se comprend comme une entité qui a sa particularité et qui sous-continue.
alors, collective.
Oui, alors.
Eh bien, faire.
Ce que je veux dire,
c'est. Comment on l'appréhende, c'est par la déclamation.
Alors.
Et tous les autres modes, ils sont très intéressants. Mais en tant que tels, ils ne sont pas ici pertinents. Ils sont non relevants pour notre sujet.
Mais c'est neutralisant.
Ça dépend quel est. Quel est
c'est qu'on n'est pas obligé de s'occuper que des choses qui sont marquées dans la Mishnah.
Non.
On peut aussi avoir des projets d'urbanisme et de politique et de démocratie.
Non, je parle pas.
Ce que vous voulez, mais ce n'est pas le sujet.
C'est pas le sujet de ce soir. Mais si on ouvre le commentaire d'Esther et on essaye de comprendre un certain nombre de passages et la manière dont ils sont abordés, on touche à la question, disons, d'un équivalent de la politique qui n'est pas de la nature de la politique ou d'une certaine, disons, acception assez, disons, j'admets qu'on peut l'appeler politique, si ça, ça a à voir avec l'assemblement, donc on peut dire que c'est politique, mais qui va toucher à des questions politiques dans le sens grec du terme, sans utiliser le terme politique.
Dans le sens grec, politique. Tic, ça veut dire en rapport.
Oui.
Police, ça veut dire la ville. Mais en rapport avec la ville.
La police, c'est
pas. En grec comme vous.
Non, vous parlez.
Mais vous parlez vous... Non, de vous... ce mot grec en français.
Non, vous parlez.
En occidental.
Non, c'est vous. C'est vous. Parce que police chez les Grecs ne veut pas dire simplement une unité urbaine. C'est une forme politique, la police.
C'est l'agglomération.
Non, une forme politique. Par exemple, si elle n'est pas composée de citoyens, par exemple Aristote dit, si dans la cité, les citoyens ne forment plus le corps politique qui décide, la cité disparaît. Il ne veut pas dire que la ville disparaît. Elle reste. Il y aura toujours une entité urbaine. Et d'ailleurs, il y a des tas d'entités urbaines qui ne sont pas du tout de la nature de la politique ou de la police des Grecs.
Donc, le débat de l'anime est sous le mode grec. Qu'est-ce qu'il faut posséder pour être appelé une ville en Grèce?
Non,
quels sont les débats de l'anime qui correspondent en Grèce à... quels sont les personnages qu'on pourra mettre en analogie avec les dix la lune dans la police grecque pour qu'une police, elle ait ce nom, pour qu'une ville ait le nom de police. Ça vous dit, mais en structure, ça fonctionne de la même manière. S'il y a des caractéristiques ici, il y a des caractéristiques là, et cette caractéristique, ensuite, ça a un nom, ir, police. Si ça n'a pas cette caractéristique, non, ça n'a pas ce nom. Phare, ou Mukafot Roma.
S'il vous plaît, je voudrais hasarder, non, ça en prend devant. Une image qui m'est chère, je crois, c'est ce que j'appelle la structure holographique du peuple hébreu. Un hologramme, c'est une photo en relief. Vous en avez sur votre carte bleue, mais le prototype du hologramme, c'est une plaque de verre dans laquelle on voit une image en fort relief. Et quand on marche devant, on a l'impression qu'on fait le tour d'une image réelle. La propriété curieuse d'une telle plaque de verre, c'est que quand on la casse en 4, 8, 10 ou 20 morceaux, contrairement à ce qui se passerait sur une image en papier, on a toute l'image dans chacun des fragments. Un peu plus flou, parce qu'évidemment, les détails s'affadissent. On peut la casser en 1000 morceaux, et dans chacun des 1000 morceaux, il y a toute l'image. Ainsi est le peuple hébreu. Tout le peuple hébreu est dans chaque hébreu. Chaque juif porte toute la Torah et toute la mission du peuple d'Israël. Il la porte plus ou moins bien, plus ou moins savamment, plus ou moins clairement, avec plus ou moins de mérite. D'où l'assemblée. Parce qu'on parle à chacun comme un être unique qui porte toute l'assemblée, à lui tout seul. Et le thème de la harangue de l'assemblée court à travers toute la Torah. Mont Sinaï, tout le monde entend. Les différentes proclamations de Moïse, pas content, et rarement content, tout le peuple entend. C'est Am Israël. Tandis que dans une cité grecque, il y a automatiquement, immédiatement, une hiérarchie. C'est-à-dire des chefs et des gens qui obéissent. Et en plus, une prépondérance de la population des esclaves. Alors que chez les juifs, les esclaves, c'est une espèce de nécessité juridico-économique, temporaire, fragile, et il faut les traiter avec une extrême considération. Donc les Slaves, c'est un pis-aller. Mais il n'en reste pas moins qui compte dans l'Ignane. Donc, le peuple juif a cette propriété tout à fait singulière d'être une collection d'individus non agrégeables. Chaque juif porte tout le peuple juif.
Je pense que c'est une sur la dernière Mignane, il faut qu'il soit affranchi. Un esclave ne participe pas au Mignane. Donc, ça rejoint que dans la police de la Mishnah, il y a aussi des catégories, sauf qu'on n'en a pas fait état ici. Mais il y a aussi des catégories, bien évidemment. Toutes les sortes de catégories.
Je crois que la question n'est pas finie sur la c'est.
Que notre point de départ, c'est pas qu'est-ce qu'on appelle une ville. La question, c'est qu'est-ce qu'on appelle la politique. C'est ça le point de départ. Donc, il se trouve naturellement que le mot même politique est tiré du grec polis, non pas parce qu'il y avait une ville. Parce qu'il y avait des tas de villes avant les Grecs et ailleurs. C'est parce que c'était une manière très spécifique de s'organiser. Une manière très spécifique de s'organiser. Et le mot, le substantif politique tiré de polis, c'est pas simplement parce qu'elle a la qualité d'une ville, c'est parce qu'elle a la qualité de l'autonomie, d'une certaine manière de comprendre l'autonomie. Si Israël ne connaît pas ce genre d'autonomie, comme Israël ne connaît pas ce genre d'autonomie,
vous savez déjà qu'il n'y a pas cette autonomie alors, dans la notion de lire.
Mais
je veux pas qu'il n'est pas marqué dans ce texte. Qu'elle n'est pas là.
Alors,
on a parlé de la politique dans la Megillah.
D'accord.
On n'a pas parlé de alors, combien il faut d'habitants dans cette ville pour qu'elle ait une
vie de Sanhédrin. On va dire autrement. Si le mot politique ne trouve pas de transposition en langue hébraïque, on en a en vérité, regardez en Israël. Pour finir, quand on doit dire politique, tout le monde dit politica, hein, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a personne, on n'a pas forgé de termes terme spécifiques. Donc même en situation moderne et de décalque complet de la politique sur, disons, sur le modèle européen, on n'a même pas forgé un terme spécifique pour dire la politique. Alors, la question c'est, et pourtant, et c'est ça le point, pourtant, il y a de la politique. Et il n'y a pas, il y a de la politique juive. Et on la trouve, si on fait le travail analytique de comparaison, on la trouve peut-être pas là où on pense la trouver, mais il y en a. Quand est-ce qu'on trouve la politique? C'est ça le point de mon livre. Vient la politique quand, comme une nécessité, c'est-à-dire dans les situations dans lesquelles on ne peut pas s'en passer. Et quand on ne peut pas s'en passer, ce sont ce qu'on appelle ce sont des moments de crise. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un moment de crise? C'est quand.
Mais ça, c'est des théories pour moi.
Non, ce n'est pas des
c'est
théories.
C'est pas quelque chose que vous pouvez démontrer comme tel, que politique, ça veut dire ça. Le mot politique, il ne vous appartient pas pour que vous puissiez l'enfermer. Pour dire que la politique non. correspond au comportement
non,
de gestion d'une crise.
Non, c'est.
Bah, non, politique, ça ne veut pas dire ça. Politique, ça veut dire qu'il y a trait au collectif et plus exactement qu'il y a trait à la ville qui contient ce collectif.
Comment vous le faire comprendre?
Non, je crois que ça associe un collectif qui vise l'intention. Une politique, c'est des choix. Donc, si ça a une telle importance dans le monde moderne, c'est qu'il n'y a plus de religion. Au Moyen-Âge, l'essentiel des principes qui régissaient une collectivité, c'était l'Église.
l'Église a pratiquement disparu de sa fréquence par la Corpo, et on va la remplacer par un nouveau sacré qui est la volonté de protéger, qu'on appelle le corps, qui n'est jamais tout le monde, mais qui est une certaine faction qui impose ses normes aux autres. C'est ça la politique. Droite, gauche.
Une possibilité de la politique.
On ne trouve rien de tel dans les vocations de la collectivité des juifs.
Les juifs, dans la Mishnah, quand ils parlent du collectif, c'est pour parler de ce qui le met en commun, c'est-à-dire la déclamation, la parole qui va les réunir. Vous croyez que ça, c'est non signifiant?
Totalement, bien sûr.
C'est non signifiant pour la manière dont ce collectif va être constitué.
Et cette école de parole n'a pas de clivage. C'est une parole. C'est une parole que tout le monde doit avoir entendue.
Pour la commande, parce que la Kriya Torah, c'est une déclamation, mais personne ne pense pouvoir comprendre ce qui est dit en déclamation. La déclamation de la Torah, c'est juste pour que tout le monde soit à la même page. Que cette semaine, on sait tous qu'on est par Jad Vaikra, par Jad Zahra, donc si quelqu'un il a un bar Torah à faire, c'est là-dessus. Et ce qu'on entend à la Beit HaKnesset, à la maison de rassemblement, c'est juste la voix, l'écho de cette voix qui nous vient de loin. Mais c'est pas avec ça qu'on aura la contenu. C'est pas de la déclamation directement qu'on a la contenu. Ni de la déclamation de la Torah, ni de la déclamation de la Megillah. La déclamation en tant que telle, ce n'est que un intérêt qu'on porte à cette parole. Et si cette parole, c'est ça qu'on a pour dire notre collectif, eh ben, le collectif, il en est fortement influencé. C'est là ma théorie que dans la Megillah, il y a de la politique.
Mais tous les grands économistes sont convaincus qu'il y a une origine divine. Donc, de ce côté-là,
Et ça, c'est pas une difficulté en tant que telle. Chez les Grecs aussi, il y a la poétique. La poétique, c'est un moment où on déclame des choses, et ça peut être même avec des textes à caractère religieux. Il n'y a pas une contradiction entre religieux et politique. Politique, ça veut dire qu'il y a trait au collectif. C'est tout ce que ça veut dire. Une action qui n'est pas un intérêt d'un homme particulier qui négocie sa vie en tant qu'individu, mais qui est quelque chose qui a une répercussion sur le collectif. Un collectif, l'universel, dans la Torah, c'est 10 personnes.
Chez les Grecs, politiques impliquent des choix, des oppositions, un renoncement. Une priorité donnée à certaines valeurs par rapport à d'autres. Dans la Torah, non. Dans la Torah, on est absolument convaincu qu'il y a un seul roi à Kadosh Baruch Hu. Cela dit, on a une idée de manière de comprendre ce qu'il dit. Mais il y a un point sur lequel on ne discute pas. C'est que ce qu'il dit, c'est la vérité absolue, sacrée. Il n'y a rien de tel chez les Grecs, puisqu'il y a une multiplicité de dieux qui se disputent.
Mais je crois pas qu'il y a tellement de versions sur la manière de raconter la mythologie chez les Grecs.
Mais ça, c'est pas des lois, c'est des temps.
Mais on parle de quoi, là? On parle de ce qu'on met en commun pour créer un collectif, un conte. Vous croyez que c'est une chose qui est non signifiante pour ce qui forme un collectif?
Mais les dieux se battent.
Mais alors, parce que...
Dans l'Antiquité, que ce soit grec ou romaine, il y a bien une place prépondérante de la religion, avec toutes les règles qu'elle comporte, et toutes les conséquences qu'elle a sur la structure sociale de la cité antique. Mais peu importe, je comprends pas du tout dans ce débat pourquoi on parle des Grecs. On parle de la Mélinat, des explications sur qu'est-ce que la cité, de point de vue de la Mélinat, où est-ce qu'on a Ir, mais il faut avoir un Mignan et au moins 10 personnes qui sont prêts pour tout abandonner pour aller construire une mignane, la chose m'a l'air claire.
C'est pour ça que je disais qu'il n'y avait pas de...
Que chez les Grecs, il n'y avait pas de... Oui, bon, bah, c'est ça. Mais si c'est juste ça...
C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de...
C'est la chose la plus intéressante qu'on avait à dire sur la soirée, je sens que je...
Il n'y a chez les Hébreux rien d'équivalent à la distinction entre la plèbe et l'aristocratie.
Enfin, c'est drôle, il y a bien des mythes entourés ou pas entourés, il y a bien des esclaves, des gens qui ne sont pas habillés esclaves, il y a bien des gens qui sont religieux, des gens qui ne le sont pas, il y a bien... c'est une des choses que vous avez rappelé tout à l'heure dans le rappel, je suis arrivé un peu tardivement, vous avez dit notamment que dans la royauté en Israël, il y a une oligarchie, il y a une séparation de pouvoir, un roi désigné par le Kohen à Gadol, et le peuple qui peut le destituer. Donc on a bien une organisation de la cité et de la royauté en Israël, tout comme on a des organisations en Grèce, à Rome et dans toutes les cités de l'Antiquité autour de la Méditerranée. C'est pas vrai.
Oui, relisez ce dit chemin du roi. C'est une catastrophe.
Oui, c'est aussi.
Souvent, on va voir son état de santé.
Je n'entends pas assez la.
Il n'y a pas de mot pour dire que du coup c'est un hébreu. Et donc si la langue de la politique elle est gérée et exprimée et proférée dans cette langue-là, vous avez raison, il y a des politicaïm, mais est-ce que ça résonne d'une manière ou d'une autre avec les mots utilisés dans la Mishnah? Non. Alors, il y a un thème pour lequel la Mishnah va prolonger cette question-là, c'est lorsqu'on va examiner de quelle manière les Juifs considèrent les autres. Et donc, on arriverait au Noachi. De ça, on n'a pas parlé. Je ne pense pas qu'il faille majorer exagérément la recherche du nom ou du mot. Mais quelque chose me frappe, c'est que le langage est grec. Le langage est grec. Et parfois, les locuteurs ne le savent même pas. C'est bien ou c'est pas bien, c'est autre chose. Nous sommes là pour essayer d'échanger sur les réalités de ce qu'on a mis sur la table autour de cette table. Donc, je voudrais cette fois-ci, contrairement à ce qu'on a dit, minorer un peu cette focalisation sur les mots pour le dire.
Je serais d'accord pour minorer. Pour moi, c'est un point de comparaison, c'est pas juste. Mais l'avantage du point de comparaison, c'est qu'il fait ressortir des choses qui, manifestement, ne sont pas très visibles pour tout le monde, d'ailleurs. Ils ne sont pas visibles. Le but est de rendre le but de la travail académique et du travail intellectuel, c'est de faire ressortir des choses qu'on ne voit pas. Alors, voilà, on peut décider de ne pas les voir et que ça n'a rien à voir avec. Je ne parle pas de vous, hein. Je vois bien qu'il y a une résistance. À l'idée que les Juifs ont pu. D'abord, il y a une résistance à regarder les choses historiquement, pour comprendre. Mais s'il n'y a pas de résistance à prendre les choses historiquement, on se rend bien compte qu'en réalité, le dispositif dont on parle là est un passage. Il y a négociation, disons, d'une situation dans laquelle il y a un royaume, il y a un territoire, il y a un temple, il y a toute une infrastructure qui est toujours territorialisée, à une situation dans laquelle ce n'est plus le cas. Et donc, il y a tout un réseau sémantique pour dire les choses de l'organisation, on l'a vu, avec la division du pouvoir, le roi n'a pas le... Voilà, le roi, les Kohanim... Bien sûr, il y a une structure de division du pouvoir. Ce qu'il y a, c'est que naturellement, dès lors que le royaume disparaît, on est dans une autre configuration. Cette configuration est appelée exil, et la plupart des gens seraient prêts à dire que l'exil n'a plus de forme politique, puisque le royaume a disparu. Le royaume a clairement une forme politique. Il a un territoire, il a une organisation, il a un gouvernement, on part en guerre, il a une armée, je ne sais pourquoi. Voilà. En exil, toute cette infrastructure disparaît. Ma question c'est, ça a disparu. naturellement, il y a un réseau sémantique politique lié à la vie territorialisée. Quel a été le travail de transformation gigantesque qu'il a fallu pour qu'un collectif qui se réclame de la lignée de, on va dire, de l'ancien Israël, d'Israël dans sa forme territorialisée, se perpétue, se continue? Est-ce que pour ce faire, est-ce que pour mener cette vie déterritorialisée et dispersée, il a suffi de, disons, d'approfondir l'étude pour continuer d'exister, ou est-ce que les Juifs ont dû aussi penser à la manière dont, un, ils continuaient de former une entité, alors je dis politique parce que je ne sais pas comment le dire autrement, mais une entité quasi politique, et comment à la fois il a fallu négocier une autonomie interne, l'autonomie qui permet effectivement de faire tout ce que d'observer la loi, et cette observance de la loi, on le voit bien, elle a été immédiatement contrebalancée. Voilà, on connaît l'adage, dit d'un de Malkutadina, c'est quoi? La recherche d'un compromis. C'est-à-dire qu'au début, ça concernait les taxations, ça s'est étendu à tout un ensemble de domaines. Il fallait s'ajuster aux pays dans lesquels on était soumis à un roi étranger, avec une loi étrangère. Donc, le judaïsme de l'exil, c'est pas pour rien que c'est dans la Megillat Esther qu'on dit Ish Yudi Hayav de Shushan. C'est la première fois qu'on désigne Israël uniquement, exclusivement et sans ambiguïté par le terme Yudi. C'est à l'étranger, c'est à l'extérieur, c'est en exil. Alors, toute la question est de savoir comment est-ce que ce collectif va se perpétuer. Alors, on a naturellement tout ce que les Américains, dans leur recherche, appellent « Kahal Politics », c'est-à-dire, en fait, la structure d'organisation interne des Keilot. Des énormes variantes. Il y a un champ de la recherche là-dessus, vous avez des énormes variantes. Vous prenez le Conseil des quatre pays en Pologne, ça n'a rien à voir avec la manière dont les Juifs du Maroc se sont organisés ou du Yémen, et à travers le temps et à travers l'espace. On sait très bien qu'il y a des rabbins qui ont pu être des chefs de communauté. Quelquefois, c'était des fonctions séparées où il y avait un syndic d'un côté, il y avait le rabbin de l'autre, etc. Tout ça a une histoire spécifique de l'organisation interne. La question que je me pose, c'est celle de savoir, et vis-à-vis de l'extérieur, parce que naturellement Israël se trouve en quelque sorte à l'intérieur d'entités politiques qui lui dictent sa loi. Donc la grande difficulté de l'exil, c'est, et ça tout le monde est d'accord, les Juifs sont confrontés, on va dire, à deux lois, la Torah d'Israël et la Torah, parce que souvent c'est dit comme ça, c'est la Torah étrangère, la loi étrangère. Il y a la loi d'Israël, la Torah de Moshe, et il y a la loi du pays étranger, du roi. Ce sont deux autorités qui peuvent se contredire, ou quelquefois qui peuvent s'harmoniser. Toute la question est de savoir comment. Il y a un autre problème, un deuxième problème, c'est qu'il y a deux autorités, c'est pas seulement deux lois. Il y a un roi qui décide, mais les Juifs ont aussi, ils ont aussi un roi, qui est le roi des rois. Quel est le lien entre ces deux autorités? Comment ils vont se régler? Parce qu'il va bien falloir obéir à l'un sans désobéir à l'autre, et vice-versa.
Si vous permettez, j'ai une réponse. L'interprétation personnelle de la réalité politique avec notre problème. C'est que les peuples de la terre constatent une incroyable résilience du peuple. C'est le fameux mystère du travail.
On survit à tout. Pourquoi? Parce que nous observons le Shabbat, que nous avons des lois alimentaires, que nous avons des prières, et surtout que nous avons des maisons d'études. C'est-à-dire que la survie du peuple d'Israël ne dépend pas, contrairement à ce que la Kabbale croit, d'une force que je qualifierais sans hésiter de politique. C'est-à-dire, on possède les médias, l'argent, des influences politiques, et c'est comme ça qu'on se protège les uns des autres. C'est faux. En réalité, sa protection, le juif la porte en lui-même. Le fait qu'il observe les commandements divins ne résulte d'aucune autorité proprement politique. Ça résulte...
Eh bien, dans l'histoire, c'est pas vrai. Dans l'histoire, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas, le tableau n'est pas complet. Alors, ce que vous décrivez, c'est effectivement que les Américains appellent garde politique, c'est-à-dire les conditions de l'autonomie qui fait qu'on a des écoles et qu'on a des maisons d'études et qu'on peut se, et qu'on peut se consacrer à ce qui est l'essentiel. Je ne rentre pas dans la question de savoir ce qui est essentiel. Moi, je pense que du résumé qu'on avait, il y avait beaucoup de matière à discuter, même mes positions, quelquefois, vous les dites de manière tellement abrupte que je sursaute moi-même. Mais il y avait autre chose. Il y a une manière politique de se maintenir et d'assurer la continuité. Et ça, c'est pas simplement quelque chose de pragmatique qui est détaché du patrimoine, on va dire, du patrimoine...
Vous pouvez donner des exemples, un exemple ou deux exemples de ce que vous dites là?
En fait, tout le livre...
À quoi vous pensez quand vous dites ça?
Ben, tous les livres que j'ai consacrés étaient de montrer ça. C'est-à-dire, ce n'est que ça, en fait. Tout l'ouvrage, ce n'est que ça. C'est la question comment on gère la relation avec, le, par exemple, comment on gère la relation avec deux autorités politiques. C'est un grand problème. Comment est-ce qu'on se maintient quand, comme vous avez dit, quand Amalek, donc quand il y a l'hostilité de la foule. Bon, ça c'est un grand problème. Pour se prémunir contre l'hostilité de la foule, il va bien falloir, puisqu'on ne peut pas se défendre soi-même, encore qu'au Moyen-Âge, il est arrivé que les Juifs aient le droit de porter l'épée. Comme la noblesse chevaleresque, donc les situations varient. Mais la structure de base, c'est une alliance avec le roi. Comment est-ce que les Juifs ont conçu l'alliance avec le roi? Ils l'ont conçue parce qu'ils ont déjà une première alliance, ils ont une alliance avec le roi des rois. Pas seulement ça. Ils ont une alliance avec Dieu qu'ils ont appelé à cette occasion le roi des rois. C'est-à-dire pour bien indiquer que le roi était au-dessus du roi avec lequel eux allaient faire alliance. Si vous regardez dans le livre d'Esther, les commentaires, jusqu'aux médiévaux, il est évident que les Juifs se sont intéressés tout spécialement au livre d'Esther parce qu'ils ont vu dans ce livre, d'abord le livre... C'est le seul qui se déroule en exil du début à la fin. C'est le seul aussi qui ne mentionne pas le nom de Dieu, ce qui correspond à la situation de l'exil quand même, où en fait Dieu voile sa face. Donc il est absent du livre. Et donc toute la question était de décrypter en réalité le livre d'Esther pour essayer de comprendre comment conduire, et alors c'est là que j'appelle, une politique. Comment conduire une politique? Alors, le problème, c'est que la politique suppose l'autonomie. D'où l'intérêt à penser aux Grecs. Parce que par comparaison, ça nous donne une idée de ce à quoi ils ont dû être confrontés. Ils ont dû être confrontés au problème de prendre l'initiative. Comment est-ce qu'on prend l'initiative? Est-ce qu'il y a quelque chose qui permet de prendre l'initiative? Eh bien, il y a des choses qui permettent, et les rabbins y ont pensé, les commentaires y ont pensé, ils ont pensé la possibilité d'initiative. Mais c'était compliqué, donc j'essaie dans les livres de montrer comment on a pu penser l'initiative dans un cadre qui interdit l'initiative ou qui les limite fortement. La preuve, on se réunit pour déclamer. On se réunit pas pour la, vous voyez dans la Mishnah, on se réunit pas pour prendre une initiative. Et pourtant on s'est réunis pour prendre des initiatives. Et on a dû le justifier. Et ce rapport compliqué à l'initiative politique, on la retrouve jusque dans le moment de la naissance de la royauté. Vous connaissez l'épisode. Le problème de la royauté, tel qu'il est raconté, on sait que la bon, peu importe, dans Samuel, lorsqu'elle naît la royauté, elle naît parce que il y a un rapport d'hostilité qui vient de l'extérieur. Le peuple demande à un roi, quelle est sa justification? Pour faire la guerre. C'est ça qu'il dit le peuple. Il a peur. Or, naturellement, avoir peur, c'est manquer de confiance en Dieu. Puisque Dieu promet. Hein, c'est l'expression lobatar. Il n'a pas eu confiance. Il n'a pas eu confiance. Alors, naturellement, c'est pour ça que la royauté, elle confine toujours à l'idolâtrie. Parce qu'en réalité, c'est une espèce de fissure dans la confiance à l'égard de Dieu. Et pourtant, Samuel... Et c'est à cette occasion que Dieu dit, c'est moi le roi. Donc le fait d'être le roi d'Israël vient quand il y a un concurrent, que Dieu agrée pourtant. Donc en fait, Dieu accepte que soit ponctionné sur son pouvoir de réassurance et de défense d'Israël, en admettant qu'il y ait un roi qui soit nommé à la tête du peuple. Vous remarquez, le premier roi, Shaoul, on dit jamais Shaoul Melech Israël, jamais. Il faut attendre David pour que on dit qu'il est le roi d'Israël. Alors, maintenant, pourquoi? Mais parce qu'il fait concurrence. Et parce que le fait même qu'il règne procède d'un manquement, d'une défiance à l'égard du Tout-Puissant. Donc vous avez une structure dans laquelle l'initiative s'arrache extrêmement difficilement, parce que le peuple juif dans son récit n'est pas autonome. Il est libéré par quelqu'un d'autre. Il ne se libère pas de l'esclavage. C'est pas Moïse qui libère le peuple, c'est Dieu qui libère le peuple, c'est Dieu qui combat Pharaon. C'est pour ça que dans la Haggadah de Pessah, si je me trompe, on ne mentionne même pas Moïse. Donc, alors, dans le commentaire d'Esther, par exemple, quand Esther dit, quand elle va, elle doit aller vers le roi, et elle demande au peuple de jeûner pour elle. Alors, le Midrash fait une mise en scène très intéressante, raconte ça de manière très intéressante. Il dit, elle proclame un jeûne alors que c'est Pessah. Et Mardoché lui rappelle qu'il est impossible de jeûner, parce qu'il faut commémorer la Pâque. Or, qu'est-ce que c'est la Pâque? La Pâque, c'est la libération du peuple par Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas commémorer la Pâque? Ça veut dire ne pas compter sur une libération de Dieu. Donc, vous voyez, vous avez dans le commentaire tout un mouvement qui est fait pour justifier, on pourrait dire, l'initiative, mais dans la crise. Le livre d'Esther, c'est qu'un récit de crise. Ça commence, c'est du début à la fin, une crise qui se développe et qui trouve sa résolution à la fin. Voilà. Et donc le modèle de l'initiative dans la crise, les Juifs la tirent du commentaire d'Esther. C'est ça que j'essaie de montrer dans le livre.
Juste prendre deux, trois avis en rafale, Jérémy, Annaël et Tony. J'ai entendu une phrase très intéressante, vous avez dit, cette initiative-là, elle n'est pas simplement issue d'un pragmatisme, mais elle est issue des textes. Parce qu'effectivement, on pourrait se dire qu'un peuple qui est persécuté, qui se retrouve au milieu des nations, la moindre des choses, s'ils sont un tout petit peu futés, c'est de ne pas se mettre à dos le pouvoir politique. Et de trouver un certain nombre de conditions qui permettent de vivre. Mais à la limite, c'est une forme d'utilitarisme, simplement. Alors vous dites derrière, c'est probablement un utilitarisme qui est censé garantir la survie, mais néanmoins, il a fallu qu'à un moment donné, ce peuple juif trouve dans ses ressources internes de quoi justement opérer cette articulation avec ce pouvoir politique, et donc il l'a trouvé dans l'île d'Esther. Est-ce qu'on ne pourrait pas le trouver aussi dans une sorte d'invariant, malgré tout, par rapport au pouvoir politique ? Y compris lorsque c'était territorialisé avec le royaume, qui est une forme de méfiance absolue envers le pouvoir politique. Et une forme, et c'est en tout cas une thèse, c'est la thèse de Yeshayahu Leibovitch par exemple, qui pensait qu'il y avait une forme de
d'anarchie constitutive au peuple juif et dans la tradition prophétique une forme de méfiance absolue, de remise en question du pouvoir politique, et qui finalement s'avère vrai aussi d'un point de vue historique, c'est-à-dire que dès que les juifs ont fait confiance de manière beaucoup trop large au pouvoir politique, ils s'en sont derrière mordu les doigts.
C'est en quelque sorte très difficile de démêler. La nécessité fait que la tradition déploie des chemins pour parvenir à ses fins. Parce que naturellement, il fallait libérer l'initiative tout en restant fidèle au socle. Et donc ça demande effectivement énormément d'inventivité, on pourrait dire. Et d'inventivité dans le commentaire des textes. Surtout dans le commentaire des textes. Parce que naturellement, il faut que la base légale soit assurée. Et vous voyez dans les textes, les commentaires par exemple sur Mardoché sont très mitigés. Par exemple, on dit il a été avalé parmi les nations. À quoi on fait référence? Pourquoi Mardoché est avalé? Parce que bon, c'est une espèce de figure du juif de cour. Donc on sait très bien qu'en réalité il fréquente un autre monde et pourtant on a besoin de lui. Il fait partie du dispositif. Alors sur ce que la dernière partie de votre remarque, de votre question.
Elle était plutôt pour dire, en réalité, est-ce que cette inventivité des juifs dans la crise, elle ne vient pas seulement d'Esther, mais même avant. Il y a une méfiance viscérale vis-à-vis de
Trump. Il semble que oui. Il semble que oui, mais il est très possible aussi que la tradition doit énormément déjà au premier exil. Alors là, on rentre dans des problèmes qui ne sont pas déjà des problèmes de lecture interne, mais des problèmes de philologie qui sont des lectures externes. On sait très bien que la pâte a été remise pour ajuster la chose. Mais bon, peu importe, il y a les ressources, bien entendu. Mais il y a les ressources parce que ça posait déjà problème. Mais cette idée qu'il y a une anarchie, vous trouvez, alors c'est un livre, c'est un très très beau livre, vous trouvez ça ça vient d'être traduit pour la première fois en français, c'est Le Royaume de Dieu de Martin Buber, qui est vraiment complètement dans cette ligne. C'est-à-dire, bon, c'est fin du 19e siècle, début du 20e siècle, on veut reprendre la tradition juive en valorisant ses potentialités politiques proprement anarchistes, parce que royaume de Dieu et anarchie veut dire en quelque sorte la même chose chez Buber. Ça veut dire écarter les médiations, écarter le roi, donc écarter tous les intermédiaires qui vont faire la politique.
Avec une intervention d'Anaël et Joe conclura.
Il y a plein de choses qui ont été ouvertes et tu as attisé ma curiosité sur plein de choses, notamment le Mahar, où il y a enfin quelque chose qui se déploie autour de pourquoi elle fait un deuxième festin, mais bon. Mais tu en as dit un peu quelque chose en parlant de Amalek qui veut supprimer un lendemain. Mais après, pour finir sur les questions des hires particulières, le deuxième jour, justement, le Mahar où on peut se battre, est-ce que c'est à Shushan seulement? C'est à Shushan seulement qu'on peut faire un deuxième jour où les Juifs, ils ont à nouveau le droit de se défendre? Shushan, c'est déjà une ville particulière, on dirait, dans la Megillah. Alors, est-ce que tu as creusé ça? C'est quoi Shushan? Pourquoi il y a une ville particulière? À Shushan, il ne se passe pas la même chose qu'ailleurs.
Et est-ce que c'est la ville où le roi, en tout cas, à ce moment-là, il siège et donc il a fait sa capitale. On appelle Shushan Habira, Shushan la citadelle, Shushan, elle a ceci de particulier qu'elle est le siège pour les 127 provinces des ordres des Diutkema que le roi il envoie. Ça c'est la spécificité de Shushan. Donc à Shushan, il y a, on va dire, la cour d'Ahasvéros. Et c'est dans cette cour d'Ahasvéros qu'il y a encore des ennemis qui n'ont pas été éliminés en un jour, comme partout dans le royaume. Partout dans le royaume, il a suffi du 13 Adar pour liquider, conclure tous les ennemis. À Shushan, il fallait encore un jour. Pourquoi ? Le texte, il ne le dit pas explicitement. Mais on peut supposer que Shushan Habira, c'était l'endroit justement où se jouaient les questions relatives à l'Empire, et que c'est parmi cette population de Shushan que Esther a vu des ennemis potentiels, et c'est pour ça qu'elle a demandé une autorisation d'aller les tuer aussi ce jour-là. Ce qui n'a été pas nécessaire ailleurs qu'à Shushan.
Alors sur l'explication du deuxième
Rashi, et la plupart des médiévaux disent, elle a fait un deuxième repas pour savoir si lors du premier Dieu allait intervenir lui-même. Vous voyez, on a de nouveau le problème que j'ai soulevé tout à l'heure. Elle fait un premier festin en pensant que peut-être là il va y avoir intervention, donc il ne va pas y avoir intervention humaine, et quand elle voit que Dieu n'intervient pas, elle fait le deuxième festin et elle est sûre qu'elle va devoir intervenir
elle-même. C'est l'interprétation, elle ne veut pas se mouiller, mais ça ne dit pas au marquant du jugement qu'il a mis en place.
Non, mais le deuxième festin est lié au fait que c'est l'attestation qu'il y a autorisation d'agir par soi-même. C'est ça que disent les commentaires.
D'accord, mais ça j'entends, c'est des choses qu'on a déjà pu chacun entendre, mais ça ne lie pas au réseau de Mara que Yona est
exprimé. Je vais suspendre, Hüller, bien entendu, les réflexions sur l'histoire. Si nous sommes ici, c'est que je vous fais crédit d'avoir touché du doigt beaucoup de choses. Et la qualité de la réunion d'aujourd'hui, de mon point de vue, vient de la solidité de l'exposé de Yona. Pas parce qu'il a raison, on peut suspendre cette question, mais parce qu'il il permet cet échange. On n'a pas abordé encore ici une discussion texte à texte sur la fin de votre livre, La pérennité du fait juif, c'est-à-dire là où vous abordez ce que vous trouvez dans les commentaires de la Megillah. Il faudrait que ce soit fait de manière plus solide, alors je ne sais pas comment ça peut être programmatique. Mais je me permets juste à ce moment-là de dériver tout à fait ailleurs et de parler de votre livre La France sans les Juifs, ça m'y fait penser. J'ai trouvé plein de bonnes choses et des choses qui ont emporté mon adhésion. Sauf qu'il arrive un moment où je me suis dit, mais est-ce que, entre ce que vous décrivez, c'est-à-dire la Galoute et Israël, Israël étant ce qu'elle est, est-ce qu'il y a, de votre point de vue, encore de l'un, L'UN, est-ce qu'il y a encore de l'un à vous entendre, plus, mais je ne veux pas faire ce genre de procès facile. Mais je dis juste à un moment donné, quand vous avez analysé la question des Juifs de la diaspora, vous avez focalisé en France sur Aaron, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Bon, Anna Arendt étant d'un autre horizon, très bien. Mais je lis à un moment donné, quand vous parlez après avoir parlé d'Aaron, de cette manière pathétique, vous empruntez le mot lui-même au fait qu'il a déclaré, pas dans un égarement, mais il a déclaré le troisième jour de la guerre après les déclarations de De Gaulle, ou en tout cas par sa peur de voir le Israël disparaître, que ce jour-là, il a pensé que sa vie à lui-même allait disparaître. Beaucoup, beaucoup de choses que j'ai appréciées. Mais puis, je lis ceci, « Les Juifs devenus incroyants ne cultivent à présent qu'une fidélité familiale ordonnée à une logique de l'honneur envers un collectif qui a connu avec le nazisme les plus grandes persécutions. » Je ne vais pas plus loin, parce que je ne vais pas plus loin. Mais je me suis dit, quelle place donne Daniel Strom aux Juifs croyants qui sont en exil ?
Ça, c'est une citation de Aaron.
Oui, mais vous la faites.
vous la faites vôtre. En tout cas, en disant que les Juifs d'Europe, enfin de France ou d'Europe, vont disparaître. La France sans les Juifs, point d'interrogation ou sans point d'interrogation. Bon, si j'ai mal compris, tant mieux.
Cette phrase-là, elle était pour décrire un Judas.
C'est mot à mot ce que dit Aaron quand il se décrit lui-même comme juif. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui de l'être? Et il dit ça.
Okay.
Ouais, non, je ne la fais pas mienne du tout, non. Non.
Mais de ce qui ressort, j'ai lu très attentivement.
Oui.
Il y a plus de place pour les juifs en Europe, pas seulement en France. J'ai lu ce que j'apprécie les analyses de Jean Populaire. Il n'y a plus de place. Donc, je suspends la question assez angoissante que vous soulevez pour dire de votre point de vue entre ce qui se passe en Israël et l'exil où nous sommes depuis 20 siècles, comment vous décrivez ce qu'il y a encore de 1 de 1. Qu'est-ce qui fait? C'est ça la question que je voulais. À un moment ou à un autre.
Oui, c'est une question
qu'on. Il faudrait un échange aussi musclé que ce que vous connaissez aujourd'hui sur vos analyses de la fin de la réalité du Covid, sur les commentaires où vous écrivez là, vous avez repris quelques mots sur Mordechai qui en fait s'est laissé prendre. Beaucoup de choses qui sont, je pense, discutables, mais tant qu'on les a pas discutées avec cette tête,
c'est qu'un procès d'intention, et si nous sommes là, c'est qu'on n'a rien à faire avec le procès d'intention. Voilà. Non, ça mériterait, notamment. Est-ce que vous pouvez, quand vous dites qu'est-ce que vous voulez dire par un?
La France sans les juifs, point d'interrogation, vrai point d'interrogation.
Oui.
Et c'est l'Europe dont vous parlez aussi.
Bon, oui.
Vous avez confirmé ça dans la grande page du Monde, vous avez répondu à l'entendre de moi. Ok, l'aspect, pour moi,
oui.
Plutôt de ma vie.
Oui.
Pour des fichus, on va disparaître. Je la pose grossièrement, parce qu'il y a des moments où ça vaut la peine d'être, grossier, c'est encore que ce soit encore.
Je tiens à dire qu'il sera à la librairie du temps de dimanche à 16h pour répondre aussi à ces questions.
Si on est là, c'est facilement pour prendre et le temps et.
Bien sûr, bien sûr. Coup de pub, c'est tout.
Exprimer notre goût de. Voilà.
Non, bien sûr. Non, mais je... En fait, vous m'exprimez votre angoisse, mais je...
Non, l'angoisse de votre analyse.
Eh bien, si vous êtes... Alors, soit il y a des éléments d'analyse qui sont incorrects, c'est, en même temps, c'est un diagnostic qui est un peu... qui est parfois un peu, on dirait un peu à la... J'ai du mal de moi-même, parfois un peu à l'emporte-pièce, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas analyser une situation, la situation que nous vivons en 150 petites pages. Mais disons, si l'argumentation vous convainc, eh bien, c'est la conclusion qu'on est obligé d'en tirer. Et s'il y a des éléments d'analyse qui vous paraissent, disons, discutables ou que j'ai mal, ou des choses que j'ai mal comprises, ou des choses, moi je suis tout prêt à entendre, mais ce que j'ai voulu faire, c'est qu'on n'en reste pas à des espèces de réactions chaque fois au coup par coup en disant voilà, il y a ceci, puis les banlieues, puis machin, puis ça se calme et puis ça recommence. C'est qu'il y a un problème structurel. Et ce problème structurel, il ne se comprend que si on veut bien faire un diagnostic d'abord complet. C'est-à-dire le diagnostic complet, c'est une situation d'après-guerre où il y a les Juifs,
et il y a les États européens et l'Europe, et où il y a l'État d'Israël. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est une triangulaire, pour comprendre la situation. On est dans une situation, une espèce de triangulaire. Et deuxièmement, il faut regarder tout simplement les faits tels que la mise en mouvement géopolitique des Juifs en Europe a commencé dans le dernier quart du XIXe siècle. Ce sont les Juifs de l'Est qui ont commencé à se déplacer, à partir, soit en Europe de l'Ouest. Je veux dire, oui, mais il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Si les Juifs de France partent, et si la tendance se confirme, ils partiront. Alors, il faut bien comprendre ce que je veux dire. Je veux dire, on trouve toujours un Lubavitch quelque part, même au milieu de la forêt ougandaise, ou je ne sais pas. C'est pas ça. Et ce que je veux dire, c'est la fin d'une séquence où les Juifs se sont en quelque sorte, se sont ajustés et ont fait un long morceau de chemin en Europe, à l'intérieur des nations dans lesquelles ils ont vécu. Et avec, naturellement, avec tout un cycle de fécondation mutuelle. C'est ce cycle qui, probablement, est en train de prendre fin. Je pense qu'il a pris fin, probablement qu'il a pris fin avec la Shoah, mais ce qu'on vit aujourd'hui, ce sont les dernières répercussions, en fait, de cet événement. Ça, c'est la thèse dans le livre. Ce sont les dernières répercussions qui font que, et c'est un fait objectif, qu'il n'y a pas un d'entre nous qui n'a pas songé, même en disant qu'il ne partirait jamais, ou même en disant que jamais il ne ferait, qu'il n'y a pas songé. Ça, je pense que c'est une situation tout à fait nouvelle. Et dès lors que chacun de nous, qui se pense juif de la manière dont vous voulez, peu importe, du moment que ça a traversé son esprit, c'est qu'il faut imaginer que la France puisse être une France sans juifs.
Restons frustrés avec les questions qu'on garde pour la prochaine.
Ça fait 20 siècles. C'était structurel, il faudrait aller dans la structure. Là, c'est le
prochain épisode.
Bon, Dany, merci infiniment de nous avoir donné une troisième soirée l'occasion d'interpeller votre livre et de rajouter les couches. Et effectivement, la leçon de Yona Habit-Paul, pour moi, apportait une dimension nouvelle par rapport à la lecture de votre livre. Et c'est avec plaisir, je pense, qu'on poursuivra cette exploration. Merci à tous. On s'était promis d'essayer de terminer un petit peu avant 11h, donc excusez pour le dépassement. Mais la prochaine fois, alors ça c'est pour toi Tony, ça n'a pas été fait exprès, c'est peut-être le Talmud de Babylone qui est rentré dans la programmation. En principe, quand on se rencontrera, on saura déjà si l'État d'Israël restera stable avec le même Premier ministre pour les X prochaines années, ou est-ce que, et effectivement, c'est peut-être ce couvre ce nouveau livre que vous venez de sortir, la politique juive par rapport à Israël et notre attitude par rapport à ça, notre manière de dire. Merci à tous et merci à Alexandre de persévérer à nous réunir.
Merci à vous.